France Musique, c'est l'été.
Ben oui, c'est l'été et on reçoit, comme tout au long de l'été, des invités, des musiciens. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Carole Beffa. Bonjour.
Bonjour Clément.
Vous êtes compositeur, pianiste, improvisateur, musicographe aussi. On peut dire ça comme ça, j'aime bien ce vieux mot de musicographe.
Tout à fait, ouais.
C'est mieux que écrivain de la musique. Bon alors pour vous, l'été, c'est loin d'être les vacances, Carole Beffa. Nombre de vos œuvres seront jouées un petit peu partout. En même temps, une fois que l'œuvre elle est écrite, c'est un peu les vacances parce que les interprètes, c'est à eux de travailler.
Exactement.
Mais en fait, non, vous les suivez quand même, vous allez voir toutes les créations.
Pas toutes, non. De temps en temps les répétitions, et évidemment les créations quand je peux, quand c'est pas trop loin et quand ça ne tombe pas en même temps qu'un autre concert. Mais vous avez tout à fait raison, pour un compositeur, il y a une vie après l'écriture des œuvres, et c'est quand elle essaie de se déployer elle-même grâce aux interprètes qui la jouent.
Alors ce soir à Paris, cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, à 20h, on pourra entendre des extraits de votre pièce Le Cortège des Ombres, une pièce de 2004, jouée dans le cadre du festival Jeunes Talents par l'altiste Louise Desjardins, Joanne Fargeau au piano, un vieux copain,
ouais.
Et puis Gabriel Lelouch à la clarinette. Alors en quoi consiste ce concert qui est intitulé Le Modèle et son Double ?
Alors Modèle et son Double, c'est peut-être une idée de Joanne Fargeau. Je crois que Jeunes Talents, cette association qui je voudrais rendre hommage parce que elle avait contribué à me faire connaître comme compositeur et aussi comme improvisateur à partir du tout début des années 2000, a eu l'idée de confier une carte blanche à Joanne Fargeau, un ancien. Nous avons malheureusement, Joanne et moi, passé l'âge d'être des jeunes talents, nous sommes des vieux talents, ou des vieux non talentueux, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. Et donc, comme à la fois la clarinette et l'alto sont ses instruments de prédilection, il s'associe à deux jeunes talents, pour le coup, pour ce répertoire. Alors, j'imagine que c'est lié, l'idée du double, au fait que, effectivement, on a souvent considéré l'alto comme le double de la clarinette, à peu près la même étendue, souvent des répertoires communs. Là, il s'agit de les associer dans des œuvres où c'est parfois l'une, parfois l'autre, qui joue, et parfois les deux. Je suis d'autant plus content que il se trouve que Gabriel Lelouch est un de mes anciens élèves à Normale Sup. Il a tout simplement la particularité d'être normalien scientifique, docteur en maths depuis quelques mois, et maintenant clarinettiste à l'harmonie de l'air. Et voilà, c'est un superbe musicien, donc je suis très content qu'il
soit là. En fait, il est un peu comme vous. Il a un parcours où il est à la fois universitaire, à la fois musicien.
Tout à fait. Je sais pas d'ailleurs ce qu'il va réussir à faire. Enfin, je me fais pas trop de soucis pour lui, mais je veux dire... Il pourrait tout à fait continuer à démontrer des théorèmes et à faire un peu de clarinette en même temps.
Donc votre œuvre, Le Cortège des Ombres, en tout cas des extraits, on pourra les entendre entourés de pièces de Max Bruch, d'Ernest Bloch, de Robert Schumann et de Mozart. Il y aura une autre grande création à venir, ça sera à la fin du mois aussi, au festival Berlioz de la Côte-Saint-André, le 22 août, c'est And the Dust I Love. Alors là, c'est une œuvre pour voix et orchestre, d'après un poème de Byron, Death of a Young Lady, une commande du festival avec une jeune mezzo-soprano qu'on aime beaucoup, c'est Alban Carrère, l'Orchestre National de Metz sous la baguette de David Rayan, une création qui sera diffusée d'ailleurs en direct sur France Musique avec Arnaud Merlin. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette œuvre nouvelle ?
Oui, alors en fait l'idée vient de Bruno Messina qui dirige ce festival et qui est un grand berlioziens, donc pour les 150 ans de la mort de Berlioz, commande du festival lui-même, il fallait un programme qui inclut Byron d'une façon ou d'une autre, parce que il est représenté dans d'autres œuvres pour ce concert. Et puis la question s'est posée de savoir si c'était un Byron dans sa langue originale, l'anglais, ou bien en traduction française que nous allions donner. Bruno avait une préférence pour la traduction qui correspondait mieux, disait-il, à ce qu'aurait sans doute fait Berlioz lui-même. Alors c'est une belle traduction de la fin du 19e siècle, et il s'agit d'un tout jeune Byron, mais génial poète déjà, un auteur de 14 ans qui effectivement écrit cette œuvre à la mémoire d'une jeune femme disparue qu'il a aimée. On en a d'autres témoignages sous la forme de poèmes. Donc une œuvre très poignante, et j'ai voulu faire quelque chose de très méditatif en trois parties. La première qui, on va dire, constate la mort, et par la suite, jusqu'à imaginer quelque chose comme une éternité paisible sur laquelle la pièce se clôt, on a toutes les péripéties de la réminiscence, du souvenir qui entre en ligne de compte.
Une pièce donc à découvrir le 22 août au Festival Berlioz et en direct sur France Musique. Nous on va écouter votre musique, Carole Beffa, celle qui a déjà été enregistrée, mais il n'y a pas très longtemps. C'est sous les doigts du pianiste Tristan Pfaff, une de vos 12 études pour piano. Dixième des 12 études pour piano de Carole Beffa, extrait du deuxième cahier sous les doigts de Tristan Pfaff, un disque qui est paru cette année sous le label Ad Vitam, une étude cryptée avec les lettres du nom de la ville Auvers-sur-Oise, où il y a un festival dans le cadre duquel toutes ces études ont été créées par le jeune Tristan. Tristan, c'est un instrument de torture que vous lui avez composé à Tristan,
oui, à dire,
Carole Beffa.
Celle qui lui est dédiée, qui est la 12e et dernière, est encore plus torturante, on va dire, enfin. C'est-à-dire que toutes les difficultés y sont accumulées. Là déjà, effectivement, c'est pas tout à fait une étude à mettre entre toutes les mains, on l'entend. Et vous avez raison, effectivement, ça repose de façon un peu cryptée sur l'association qu'on peut faire entre lettres de l'alphabet et notes de musique, donc A-U-V-E-R-S, d'où ce côté assez trépidant, hypnotique, qui repose finalement sur le même motif, de temps en temps transposé avec, évidemment, en plus de toutes les autres difficultés franchement digitales, des difficultés rythmiques. Donc voilà, ça n'est pas très facile, mais Tristan le fait avec merveille.
Carole Beffa, l'écriture pour le piano en tant que compositeur, elle vous est d'autant plus naturelle que vous êtes aussi pianiste et vous avez une carrière de pianiste et en partie de pianiste improvisateur. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de dates cet été, notamment des ciné-concerts. Vous serez en Chine, à Wuhan, où vous allez reprendre l'accompagnement improvisé. C'est une chose que vous avez déjà faite plusieurs fois. Des Misérables, un film d'Henri Fescourt, un film qui dure plus de 6 heures. Comment on fait pour tenir plus de 6 heures? Moi, j'ai des questions vraiment pratiques.
Non,
c'est aller aux toilettes, boire, manger. Comment on fait pendant 6 heures d'affilée d'improvisation?
Avec en plus à peu près 9 heures de décalage horaire, je crois. C'est la Chine et puis 14 heures de voyage. Donc, c'est 3 heures, puis 3 heures, mais quand même dans la même journée. C'est-à-dire qu'il y a, pour aller aux toilettes, c'est pendant l'entracte avec le public, enfin qui lui d'ailleurs a la possibilité, si vraiment l'envie est trop pressante, de partir pendant le film, ce que je peux difficilement faire.
Le film est interrompu à un moment donné, il faut une pause.
Oui, en fait le film est en deux parties, une de trois heures et quelques, et l'autre de trois heures et quelques. L'occasion de manger quand même, quelque chose de chaud, là où pendant le film je peux improviser de la main droite et aller prendre quelques fruits secs de la main gauche, boire aussi, parce que Wuhan est, je crois, une cuvette, et la ville, parmi les villes les plus chaudes de Chine l'été, donc ça va être sympathique, j'imagine, qu'il y aura un petit peu de climatisation, mais vous avez raison dans cette question très pratique et basique, l'improvisateur pour une improvisation aussi longue est forcé de se les poser.
Ben oui, d'ailleurs, il y aura d'autres improvisations à partir d'un livre que vous avez publié aussi récemment aux éditions Actes Sud, c'est Anagramme à quatre mains avec Jacques Péry-Salco, un programme que vous donnerez le 26 juillet au Festival d'Aubernais. Alors c'est quoi exactement ce petit livre d'anagramme et ses improvisations? Comment ça fonctionne? Vous avez pris le nom des compositeurs?
Alors par exemple, le nom des compositeurs, l'un d'entre eux, il en sera peut-être un peu question plus tard, Maurice Ravel, une anagramme qui ne figure pas dans le livre mais qu'on aurait pu mettre, Maurice Ravel, ça donne clameur vrai. Si vous prenez le boléro de Ravel, c'est le rodéo verbal comme anagramme. Alors, vous pouvez en avoir des plus étonnantes, par exemple, et puis dans des langues étrangères. Antonio Vivaldi donne violino davanti, ce qui tombe plutôt bien. Et puis, quantités qui sont très poétiques. Par exemple, j'aime tout particulièrement celle qu'a trouvé donc Jacques Péry-Salco, ce co-auteur de génie. Pylias et Mélisande qui donne le spleen de la Tamise. Et mon rôle consiste à essayer de montrer pourquoi il y a chez Debussy une certaine anglomanie, le fait que dans Péléas et Mélisande, on puisse associer à chacun des personnages principaux, on va dire son analogue dans le théâtre de Shakespeare. Shakespeare qui était l'un des auteurs préférés de Debussy, qui aimait aussi tout particulièrement Dickens, qui était très fan de Turner. Tout ça, ça nous rapproche du monde de la mélancolie, et pourquoi pas donc du spleen, et spleen de la Tamise, on va dire un spleen londonien, anglais en tout cas, dont il pourrait Debussy se rapprocher. Et donc c'est un livre à la fois très ludique, un peu avec ce côté ludique que peut avoir aussi l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, l'idée que la contrainte est souvent source d'expression, et que paradoxalement, la contrainte peut libérer, ce que je pense aussi vrai en musique, à vrai dire. Mais aussi, il y a un côté très sérieux, parce que je me suis forcément documenté, et j'essaie de façon assez plaisante, en truffant parfois même mes explications d'autres anagrammes à l'intérieur des textes, d'expliquer pourquoi on a tout cela, et pourquoi Jean Sibelius, c'est « je suis bien là ».
C'est presque la numérologie des lettres, d'une certaine manière.
Oui,
des lettres qui nous programmeraient notre destin.
Oui, alors il y a quelque chose comme ça, mais vous avez raison, semble-t-il, les anciens, et les Grecs en particulier, croyaient dans cette espèce de pouvoir quasiment de prédiction des mots à travers leurs lettres, et comme ça, vous pouviez donner le nom à quelqu'un, et ce nom, via une anagramme, vous déterminez à peu de choses près ce qu'allait être la destinée du nouveau-né. Il y a tout cet aspect un peu ésotérique sur lequel beaucoup se sont penchés. Nous sommes, Jacques Péry-Salco et moi, des rationalistes, mais il y a une vraie magie et une poésie des anagrammes qui nous plaît à l'un et à l'autre.
Alors, on va voir ce qui se passe dans la petite improvisation qu'on va écouter quelques instants, qui s'appelle Autoportrait, dans laquelle vous avez joué sur les lettres de votre nom. On va voir si c'est autoprogrammatique aussi de vous-même, Karl Beffa.
Thank you.
Autoportrait sfumato de Carole Beffa, par Carole Beffa. On pourrait dire c'est Carole Beffa vue par Carole Beffa, puisque c'est une improvisation en forme d'autoportrait. Cet extrait du disque En blanc et noir, un disque qui ne recèle que des improvisations que vous avez réalisées, Carole Beffa. Alors c'est comme ça que vous vous voyez, ou plutôt je devrais dire, c'est comme ça que vous vous entendez, un petit peu mélancolique et brumeux.
Oui, je n'ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis quelqu'un de très mélancolique. Non, c'est vrai, je pense. Et par ailleurs, là encore, ça repose sur les lettres, donc BE2FA, j'ai la chance d'avoir un nom de famille, donc toutes les lettres sont avant le F, et donc l'analogie avec les notes de musique se fait assez facilement.
Oui. Carole Beffa, vous improvisez beaucoup, on va redonner des dates de concerts, donc beaucoup de ciné-concerts. Le 24 juillet, vous serez dans le Cotentin au Festival des Fiefs et Musiciens, vous accompagnerez le film Au Bonheur des Dames de Julien Duvivier. Il y aura aussi le 7 août, alors là c'est pas du ciné-concert, ce sera un conte, une sorte de conte, oui, pour enfants, hein, Le roi qui n'aimait pas la musique, au festival de Saint-Tropez, avec Charles Berling en récitant, c'est plutôt classe, Renaud Capuçon au violon, Edgar Moreau au violoncelle, Paul Meyer à la clarinette et vous-même au piano, et puis un petit peu plus tard, le 8 août, à Montignac, Cinéma Vox, ce sera de nouveau un ciné-concert où là, vous accompagnerez en improvisant le célèbre fantôme de l'opéra de Julian Rupert, avec cet acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui a un visage... Incroyable. Oui, voilà, c'est ça, qui a un visage qui se défend forme sur commande, qui est absolument effrayant. Et puis alors, il y a d'autres concerts où vous demandez parfois au public de vous suggérer des thèmes d'improvisation. Est-ce que parfois on vous demande des trucs totalement improbables ?
Oui. Alors à une époque où c'était pas encore tout à fait à la mode, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une douzaine d'années, on m'avait demandé le changement climatique. Alors, changement climatique, c'est pas si absurde, hein. On peut penser à la tempête, et la tempête, elle a inspiré plus d'un compositeur. Ouais. Mais j'ai eu aussi les délibérations de jury, que vraiment, je crois que ça m'a laissé un peu sec. Parfois, c'est plus drôle, 30% de touches blanches, par exemple, qui est assez marrant.
Ah oui.
Ou encore, je crois que j'avais eu Polynésie et Centrafrique, qui a une espèce d'invitation au voyage assez exotique.
Non, ce que j'aime bien, c'est que 30% c'est... de touches blanches, ça donne un peu une musique asiatisante.
Exactement.
Non, finalement,
parce que, exactement. Bon, alors, je ne suis pas certain d'avoir fait 30, peut-être que j'ai fait 29 ou 31. Je peux pas le dire avec certitude. Mais oui, il peut y avoir des thèmes assez marrants.
Dans la série de vos activités, Carole Beffa, il y a aussi l'écriture qui tient une place assez importante. C'est impressionnant de dire le rythme auquel sortent vos livres ces derniers temps. Il y a eu le grand livre sur Ligeti cette année dernière. Et là, il y en a un nouveau qui se prépare, qui sortira le 21 août. Ce sera un livre autour de Ravel, un imaginaire musical aux éditions Le Seuil Delcourt, avec Guillaume Métayer et Alexis Cavaillès, parce que c'est un livre qui sera illustré aussi. Alors c'est quoi ? C'est l'autobiographie de Ravel ou l'autobiographie comment dire, à travers, c'est des lettres de Ravel à travers
tout à fait,
un récit.
Avec des lettres, même si on s'est inspiré d'un très bon livre paru il y a peu, moins d'un an, qui est l'intégrale Ravel par Manuel Cornejo. Là, on va dire que on imagine que Ravel se confie à son fidèle disciple devenu ami, qui est lui-même un très grand musicographe et compositeur, et qui est Alexis Roland-Manuel. Ça n'est pas, à vrai dire, invraisemblable, parce que ce qu'on connaît sous le nom d'esquisse autobiographique, qui date de 28, c'est effectivement une chose que Ravel a dictée à Roland Manuel. Et là, on imagine que ça ne fait pas quelque chose comme 8 pages, mais plutôt une trentaine de pages, donc petit artifice rhétorique. Et après 5 journées où Ravel s'est raconté à Roland Manuel, eh bien, épuisé, puisqu'il est déjà miné par la maladie, on imagine que Roland Manuel reprend le flambeau et le raconte, ce qui lui permet de faire un portrait physique et moral, ce que Ravel, qui était extrêmement réservé et finalement aimait assez peu parler de lui de façon intime, n'aurait certainement pas fait lui-même. Et donc, c'est merveilleusement dessiné par Alexis Cavaillez, qui fait des dessins qui tantôt sont extrêmement réalistes, tantôt sont fantastiques, voire magiques dans leur capacité à suggérer des choses. Alexis Cavaillez est sourd, sourd profond. Je lui ai donc décrit autant que possible les œuvres pour qu'il s'en inspire dans son dessin. Il le fait avec beaucoup de magie. Et quant à Guillaume Métayer, c'est un complice de longue date et j'étais très content de pouvoir m'associer à lui pour ce projet. Donc un roman graphique qui raconte Ravel.
Et donc ce sera le 1er, pas le 1er août, non, mais le 21 août, la sortie de ce livre avec de belles illustrations également sur la vie de Ravel. On va pardonner les dates, on les a déjà données pour les concerts, peut-être celle de ce soir donc à Paris. Ce soir c'est donc à la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens dans le cadre du festival Jeunes Talents. Parmi toutes ces activités, j'espère que vous trouvez le temps de prendre des vacances quand même, Carole Beffa. Alors ce sera ma dernière question puisque c'est celle à laquelle on soumet tous les invités de l'été. C'est quoi pour vous les vacances idéales?
Les vacances idéales, c'est le farniente.
Ben voilà, c'est une bonne réponse. Merci d'être venu nous voir ce matin, Carole Beffa. On va se quitter avec un extrait de Mémorial, une pièce qui fait partie de l'album Les Maîtres Sorciers, qui est sorti tout récemment, c'était à la fin du mois de mai, avec les musiques des Gardiens de la Paix sous la direction de Gildas Arnois. Thank you. Le final de Mémorial, une pièce de Carole Beffa retrouvée sur l'album Les Maîtres Sorciers. C'était la musique des Gardiens de la Paix sous la direction de Gildas Arnois. 8h54, c'est bientôt l'heure de se quitter avant de retrouver Émilie Munera pour l'été classique matin sur France Musique. Comme tous les matins, alors c'est l'heure de notre petit swing du jour qui nous donne le sourire pour le reste de la journée. Aujourd'hui, je vous propose le grand Louis Armstrong et son orchestre dans Harlem Stomp, enregistré pour Decca en 1940. Un pur régal.
Up Harlem way, they got a brand new sender, and I believe it's in the groove. It's got the jitterbugs all swinging, hip chicks old and tender, and they believe it's in the groove. Now here's a dance that's something new, folks uptown taught me to do, called the Harlem Stomp, the Harlem Stomp. Like a storm and cyclone mad, it swept around this dizzy fad. That's that Harlem Stomp. I say it, Harlem Stomp. Now it's composed of every dance from 1902. Young and old came up and pranced to one step Shag and Sousa Q. Every night at the old Savoy, you hear them swing a Floyd Doy. You jump right up and romp and do that Harlem Stomp.
Stomp de Louis Armstrong et son orchestre avec J.C. Higginbotham au trombone. Et c'était notre petit swing du jour. Ah ben oui, si vous êtes fidèle auditeur de France Musique, vous étiez tous au taquet pour répondre ce matin au blind test du jour. Vous êtes donc nombreux à avoir donné des bonnes réponses, mais la main du sort a tranché. La réponse à la question, c'était bien sûr la sonate en ré mineur, Kirkpatrick 141 de Domenico Scarlatti, dont je vous rappelle qu'on continue de diffuser tous les jours à 12h45 l'intégrale des sonates enregistrées au Festival de Radio France l'été dernier. Bravo donc à Laurent Savigny, Isabelle Pépin, Daniel Mazzocco, Pierrette Bernier et Hugo De Gore. Vous remportez tous un exemplaire du disque d'Adrien Mabir. Demain, mon invité sera le quatuor Yako, un très jeune quatuor invité des musicales de Normandie, festival partenaire de France Musique. Merci à toute l'équipe qui m'accompagnait aujourd'hui. Catherine Prin-Legal, Marjolaine Portier-Kaltenbar et Pierre Tessier, Stéphane Poitvin à la technique avec Antoine Giraud. À 9h, on a rendez-vous avec Émilie Munera. Bonjour Émilie.
Bonjour Clément. J'aime bien votre swing du jour.
Ça, vous avez vu, c'est super.
C'est vrai que ça met de très très bonne humeur.
Bah, demain, venez un petit peu en avance et puis danse ensemble.
Non mais je sais que vous dansez très bien vous. Moi je refuse de danser avec vous, je vais vous marcher sur les pieds.
Mais non, je vous apprendrai.
J'espère. Il y aura Patricia Kopaczynskaya dans cette émission, la violoniste aux pieds nus comme on l'appelle, et puis il y aura également Mozart, Beethoven et puis quelques humoresques de Schumann.
Merci Émilie, à tout à l'heure, les pieds nus dans le studio 451. Bonne journée à tous sur France Musique.